France Culture.
Il est impossible d'arrêter le temps. Beaucoup de monuments se veulent des temps arrêtés, des temps coulés dans du bronze ou du marbre. Alors que dans la gare, le temps reste fluide. Et la mémoire dans ces lieux fonctionne beaucoup aussi par analogie. C'est-à-dire, j'entends le bruit d'un train et je peux imaginer le bruit d'un train d'il y a 50 ou 60 ou 100 ans. C'est une atmosphère, c'est quelque chose d'insaisissable, c'est quelque chose d'impalpable que cette mémoire ferroviaire.
Moi, je me souviens, enfant, c'était même assez sombre autour de cette gare de l'Est. J'ai ce souvenir de... Oui, j'ai ce souvenir d'un endroit assez sombre et assez inhospitalier, de courant d'air, beaucoup plus que quand on partait gare de Lyon. C'est pas la même ambiance autour de la gare de Lyon qu'est la gare des départs en vacances ou devant la gare de l'Est. C'est une gare qui semble porter déjà en elle une forme de malheur. Je pense que ce ressenti remonte à l'enfance. J'avais pas encore conscience de tous ceux qui sont passés gare de l'Est. D'où ils venaient et quelles étaient leurs histoires. Là, c'est plutôt un ressenti de l'enfant qui vit à Paris et qui ne sait pas, mais qui pourtant ressent peut-être des choses.
Gare de l'Est, aller et retour. Une émission de Christine Le Cerf et Franck Lilin.
Sur une idée d'Adam Birou.
Aujourd'hui, je suis à Gare de l'Est. En roumain, on dit Gara d'Est pour Gare de l'Est. Ces dernières années, chaque fois que je retournais à Bucarest, c'était plutôt en avion. Je rêve de faire ce prochain voyage en train. Un vrai voyage de quelques jours. En train, en passant par Vienne, en traversant l'Allemagne, en m'arrêtant pour vérifier quelques petits rêves de mon enfance, puisque on mangeait à l'époque beaucoup de schnitzel et de sackertorte à Bucarest. Donc pour voir ça à Vienne. Et ensuite en repassant par la Hongrie jusqu'à arriver à Bucarest, avec ses quais agités, avec les vendeurs de bretzel à la sauvette. Toute cette agitation que j'ai beaucoup expérimentée quand j'étais petite et qui me manque tellement. Je m'appelle Andrea Badea, je suis née en 1989 à Bucarest, 3 semaines avant la révolution roumaine, et je suis arrivée en France en 2000 pour des raisons familiales. En fait, mes parents se sont séparés quand j'étais petite et j'ai laissé derrière moi à Bucarest mon père ainsi que tout le reste de ma famille et une très grande partie de mon enfance.
Moi, j'avais une dizaine d'années, j'étais une petite fille maigrichonne. Je me souviens peu de mon départ. Je sais que ça a été une longue traversée, 2 jours, je crois. Je ne me rappelle pas quel pays, je n'ai pas de souvenir de ça. Je suis née en 1939. Je me souviens bien sûr des paysages à la fenêtre du train et des ruines des villes que nous avons traversées par le train. Et Paris s'approche. Et nous arriverons à la gare de l'Est. Il pleut, il fait froid. Les gens se pressent, se bousculent. Je suis effrayée par les mouvements, par les cris, par toute cette agitation. Je m'appelle Rachel Hertel. Ma ville de naissance est Slonim, en Pologne. Et je suis arrivée en France en février 1949 à la gare de l'Est, Mizrachbahn, en yiddish.
C'était vraiment incroyable. Cette grande gare avec ses grands trains, c'était les locomotives à vapeur encore, c'était les décors, les fresques. Je m'appelle Yuli Falou. Voilà. Je suis venue à Paris pour la première fois, 57 en fait. Et j'avais pas tout à fait, mais presque 10 ans. Donc on a pris le train à la gare de l'Est de Budapest. Je ne sais pas pourquoi pas la gare de l'Ouest, mais bon. Nous avons pris le train à la gare de l'Est et nous avons traversé quasiment l'Europe, l'Autriche, la Suisse, les montagnes suisses toutes blanches, magnifiques. C'était vraiment incroyable. Et puis au bout d'un long, long moment, 24 heures, si je me souviens bien, je ne sais plus, on est arrivé à Paris. Et alors mon souvenir d'enfant, quand même le plus marquant à la gare, c'était un espèce d'immense kiosque au bout des quais. Et ce kiosque croulait sous les oranges, les bananes que j'avais jamais vues. Étant en Hongrie, où il n'y avait aucun fruit exotique, et c'était là, sous mes yeux, et ça dégoulinait du kiosque de la gare. Donc c'était un grand bonheur d'arriver là. À la gare de l'Est.
Gare de l'Est. Vostochny Vokzal, quand je suis arrivée en France, c'était ça le mot que nous nous disions dans le compartiment du train qui nous amenait à la gare de l'Est. Vostochny Vokzal, ça veut dire gare de l'Est en russe. Et il y a des gares de l'Est dans beaucoup de villes et qui se disent dans plusieurs langues. On peut penser à Ostbahnhof, en allemand. Les gares ont des noms. Et ces noms ont aussi un goût en bouche. Je pense à une couleur qui émane du son. Je m'appelle Luba Jurgensen, je suis née à Moscou en 1958 et j'ai immigré en 1975. Je vis à Paris depuis ce temps-là. Ce qui est spécifique à la gare comme lieu de mémoire, c'est que c'est un lieu qui n'a pas été coupé de la vie, que la mémoire y côtoie. Il côtoie la vie qui continue. Les trains continuent d'arriver et de partir.
Premier épisode, une nouvelle ligne.
Je m'appelle Patrice Amargé. La gare de l'Est, c'est, de toutes les gares parisiennes, la gare de mes souvenirs d'enfance un peu et surtout d'adolescence. Et c'est une gare qui a des souvenirs, puisque mon grand-père, non content d'habiter sur la ligne de l'Est, travaillait au bureau de l'Octroi à la gare de l'Est. Nous voici sur un balcon qui domine la grande halle des quais de tête de 1931, 190 mètres de long, 25 mètres de large, et c'est là qu'arrivent en face de nous les 30 voies de cette gare. Donc c'est une impression, c'est un très vaste espace.
Bon, déjà, j'adore partir de la gare de l'Est. J'aime cette gare.
Cette halle que nous voyons, en 1930, bah, évidemment, il n'y avait pas de beaux panneaux lumineux pour annoncer les arrivées et les départs. Il y avait des panneaux métalliques qu'il fallait enlever, remettre.
J'aime cette gare. J'aime cette gare et je trouve que parmi toutes les gares parisiennes, je trouve qu'elle est restée plus fidèle à ce qu'elle a été, malgré la modernisation, les commerces.
Mais pour le reste, je pense que si on ferme les yeux, le bruit, ça doit être un petit peu ce qu'il y avait, ce qu'il y a depuis 80, bientôt 100 ans.
Je pense que c'est une gare qui conserve son état d'esprit.
Nous avons en face de nous les panneaux qui nous indiquent les départs. On voit départ Île-de-France, départ Grande Ligne. La gare de l'Est, rappelons qu'au départ, c'était l'embarcadère de Strasbourg.
J'adore aller à Strasbourg.
La ligne a commencé à fonctionner dès 1849. Alors, au début, c'était l'embarcadère de Strasbourg. Je suppose qu'on a fait un parallèle avec, tout simplement, les bateaux. Les bateaux qui étaient les moyens d'aller loin, d'aller à l'étranger et dans lesquels on embarquait.
Et d'ailleurs, à Strasbourg, on est déjà dans un ailleurs quand on est en Alsace.
Peu de temps après, on a donné à la compagnie de Strasbourg la ligne de Mulhouse, ce qui a conduit à créer des voies de part et d'autre de la grande halle de l'embarcadère de Strasbourg. Et du coup, la compagnie est devenue la compagnie de l'Est et la gare est devenue officiellement la gare de l'Est. Alors, évidemment, l'apparition de ce nouveau moyen de transport ultra rapide, évidemment, ça va permettre une accélération phénoménale des échanges de marchandises et des échanges de voyageurs au sein de chacun des pays d'Europe et entre les pays d'Europe, et notamment pour ce qui est de la gare de l'Est, avec le premier pays voisin qui est l'Allemagne. Et la première étape qui sera jointe en Allemagne, ce sera le pays de Bade.
C'est une gare qui a un rôle stratégique majeur depuis 1870. Et à Strasbourg, on parle déjà de Paris comme étant la France de l'intérieur.
Je suis Odile Roinette, je suis née à Montcy-Notre-Dame, donc c'est tout près de Charleville-Mézières, donc dans l'Est. Et je suis historienne de la Première Guerre mondiale. Mon Est à moi, c'est-à-dire qu'il y a effectivement l'Est de l'ancrage familial. Voilà, la Champagne, l'Ardenne, la Lorraine, l'Alsace, bien sûr. Et puis derrière l'Allemagne, donc pour moi, il y a tous ces estes qui s'imbriquent l'un dans l'autre. Donc ce sont des territoires, des imaginaires et tout ça s'imbrique en fait. Et avant 1870, d'ailleurs, on parle plutôt de la gare de Strasbourg que de la gare de l'Est. Donc l'Est, c'est tout ce qui est parcouru par la construction progressive du réseau en fait qui va de la gare de l'Est jusqu'à Strasbourg. Et puis il y a ce tournant de la guerre franco-allemande, avec la perte de l'Alsace et de la Moselle au terme du traité de Francfort, donc mai 1871. Et là, évidemment, l'Est devient ce territoire qui n'est plus le même, qui est un territoire amputé. Et Ferry, Jules Ferry, donc le républicain, rédige un testament rendu public le 17 mars 1893 dans lequel il écrit ceci. Je désire reposer dans la même tombe que mon père et ma sœur en face de cette ligne bleue des Vosges d'où monte jusqu'à mon cœur fidèle la plainte touchante des vaincus. On trouve cette expression de ligne bleue des Vosges qui est immédiatement reprise dans la presse. Elle désigne en fait cette ligne bleue des Vosges, la ligne d'horizon hein, que dessine le sommet des Vosges qui se détache, enfin ou qui se dessine sur l'horizon bleu du ciel. Et ça désigne cette ligne à la fois une limite nouvelle, une frontière nouvelle entre la France et l'Allemagne. L'Est se construit autour de ces territoires perdus, de ces provinces perdues, et cette mise en scène de l'absence.
Mais au-delà de Strasbourg et de Mulhouse, ben, il y avait l'Allemagne. Et au-delà de l'Allemagne, il y avait la Pologne, il y avait la Russie. Et donc, on avait des trains qui n'allaient généralement pas directement, mais par l'intermédiaire des trains partant de la gare de l'Est, on allait jusqu'à Moscou. La gare de l'Est, ben, c'est une porte ouverte vers le centre et l'Est de l'Europe.
Je m'appelle Catherine Gousseff. Je suis historienne. C'est effectivement une des membres, pour l'essentiel, des élites de l'Empire, pas nécessairement russes d'ailleurs, mais des membres des élites de l'Empire, qui commencent à voyager de manière très régulière, et ça à partir, je pense, des années 1880 environ, et prennent l'habitude d'aller en France, que ce soit pour des séjours de villégiature, et puis d'aller à Paris parce que on n'est pas un homme ou une femme de culture si on ne séjourne pas à Paris, en particulier à cette époque-là, où Paris a une aura particulièrement forte au sein de l'Empire russe.
Donc là, on change de pays. Petru Dimitriou parle de la Roumanie, où deux jeunes filles vont se promener sur le quai pour voir arriver ce train très chic, mais qu'elles perçoivent, surtout dans son aura parisienne. L'attente de l'Orient Express était le grand divertissement des jeunes filles de la ville. Elles se promenaient toutes sur le quai de la gare, bras dessus, bras dessous, en parlant haut de leur voix musicale, dans leur langue mélodieuse qui a plus de voyelles qu'une autre. Il y avait aussi des paysannes en bottes à hauts talons et jupes bariolées, leur rire et leur voix tendaient à être criards. Elles aussi voulaient voir l'Orient Express. D'abord, il n'y eut rien. Les rails déserts, les rames de wagons de marchandises, le ciel bleu-gris, la chaleur de l'été. Ensuite, au fond de la plaine, l'Orient Express apparut, grandit, fit une entrée en gare tonnante, fumée de charbon, bouffée de vapeur, wagon à cajou, avec les armoiries et les lettres dorées de la compagnie des wagons-lits et grands express européens. Au stand Constantinople, en passant par les capitales de l'Europe orientale. Aux fenêtres des wagons, des petites femmes brunes et fardées gazouillaient dans une autre langue. Elles revenaient de Paris. Leurs toilettes en faisaient des bouquets de fleurs aux fenêtres des voitures.
S'il y a un train qui est vraiment le symbole de cette ouverture vers l'intérieur du continent, c'est l'Orient Express, dont la première liaison est partie en 1883. L'Orient Express, dont le but était d'atteindre la capitale de l'Empire ottoman, Constantinople, en passant par Vienne, différentes capitales de l'Europe centrale. Ça s'est fait en plusieurs étapes, bien sûr. Dans un premier temps, il fallait s'arrêter en Bulgarie, prendre un bateau, puis après ça a été prolongé jusqu'à Constantinople. Mais c'était un train qui franchissait un grand nombre de frontières, ce qui était unique. Avant, il fallait changer de train à la frontière. Là, après avoir négocié avec tous les gouvernements, son créateur, le Belge Nigel Makkers, a obtenu d'avoir un train qui passait toutes les frontières. Alors évidemment, c'était pas gratuit. Donc les gens qui allaient dans ce train, c'était pas des pauvres.
...1959, le mémorialiste Ferdinand Bach.
Je me trouvais dans le train Constantinople-Paris. C'était dans le trajet entre Munich et Strasbourg que je vis pénétrer dans le wagon-restaurant transformé en salon entre deux repas, un véritable cortège. Madame Richard Wagner était accompagnée d'une suite d'amis qui étaient l'ordinaire de sa cour. Elle se rendait à Paris. Invitée à m'asseoir auprès d'elle, une de ces longues conversations de chemin de fer s'engagea qui ne prennent fin qu'au passage d'une frontière. Sa solennité éveilla l'attention de tous les voyageurs. Certaines individualités portaient sur elles un tel prestige que, même dans l'anonymat d'un train, on est comme alerté par la présence d'un vent de gloire.
Ce train était en plus un train de grand luxe. C'était un train fabuleux. C'était un train avec des draps de soie. C'était un train avec de l'argenterie. C'était un train où circulaient non seulement les grands de ce monde, mais aussi des personnages originaux. Par exemple, la célèbre Mata Hari était une, avec ses chiens, une cliente de l'Orient Express. Basil Zaharoff, qui vendait des armes à tous les pays d'Europe, était aussi un des clients. Guillaume Apollinaire y a voyagé. Guillaume Apollinaire a écrit d'ailleurs un ouvrage un petit peu osé, comme son titre l'indique, Les 11 000 verges, qui se passe dans l'Orient Express.
J'étais fasciné par la littérature française. François Rabelais, par exemple, je trouvais ça absolument formidable. Je ne trouvais pas d'équivalent dans la littérature ni anglaise ni allemande, et encore moins celle des États-Unis. Et je me suis dit, non, mais ça doit être un pays formidable. Et puis, j'ai eu entre mes mains des vies d'artistes, des impressionnistes, des post-impressionnistes, disons, fin 19e. Mais les études étaient assez difficiles. Il fallait être pistonné, mais franchement, très, très, très pistonné. Pour entrer aux Beaux-Arts de Prague, j'ai compris que je ne pouvais plus faire la peinture. Je m'appelle Roman Kamesz, ou Kamesz, en tchèque. Je suis né en 52 à Prague, maintenant c'est la République tchèque. Je suis arrivé en France fin septembre 73 à la gare de l'Est. C'était une journée de juin, très chaude. Alors je suis allé à l'auberge boire une bière. Et là, j'ai rencontré un gars à ma tablée à qui j'étais assez suspect parce qu'il voyait que j'étais blême, verdâtre. Et, alors je me suis confié. Je lui ai dit, monsieur, j'aimerais aller faire des études à Paris, aux Beaux-Arts, dans une école célèbre. Et je ne peux pas partir. Alors, il m'a expliqué comment partir et ça a marché. Et je me suis retrouvé en Turquie, à Istanbul. Et c'était vraiment formidable, une ville orientale avec des bazars. Et j'ai vu le pont qui reliait la partie européenne à la partie asiatique avec cet espace. Donc, mon Dieu, parce que en Tchécoslovaquie, vous n'avez pas des horizons ouverts. Et puis après, j'ai pris un visa pour l'Italie. Et j'étais au musée du Vatican, Villa Borghese. Non, mais magnifique, un rêve. Et je suis arrivé à Lugano. Et à Lugano, j'ai pris un train pour Zurich et de là, un train pour Mulhouse où j'ai pris le train pour la gare de l'Est. Et 21h30, j'arrive à la gare de l'Est. Je me souviens très bien, la gare de l'Est était d'aspect un peu sinistre, défraîchie, sombre. J'ai pris mon baluchon et je descendais le boulevard de Sébastopol. Donc c'était ma première nuit à Paris. J'étais très content et j'allais au Louvre quasiment tous les jours. Je descendais par la rue de Richelieu jusqu'au Louvre, je m'arrêtais au Louvre. Ensuite, sur le pont, quelquefois, figurez-vous, je croisais Jean-Paul Belmondo qui sortait son teckel. Alors, on s'est fait un signe. Je n'ai pas voulu l'embêter, mais c'était une pure merveille.
Je suis Antoine Marès, historien spécialiste des flux migratoires au XXe siècle et du Paris des étrangers. Si l'on regarde les récits de voyage à Paris et en France, des habitants de l'Est, depuis l'époque moderne, on est frappé par un constat c'est que tous sont fascinés par la richesse de Paris et de la France. Et cette image, elle a été renforcée au XIXe siècle par le fait que Paris est le banquier de l'Europe. C'est Paris qui finance les chemins de fer européens, que ce soit en Autriche-Hongrie ou en Russie. Et les expositions universelles ont conforté cette image de Paris. Il existe plusieurs types d'étrangers qui arrivent à Paris. Il y a des touristes qui ont été attirés par notamment les expositions universelles qui se sont succédées et qui viennent découvrir une des grandes capitales, non seulement européennes, mais mondiales. Deuxième catégorie, des artistes ou des intellectuels qui viennent voir le Paris des arts, qui viennent s'y frotter, qui viennent s'y faire adouber, qui viennent en quelque sorte recevoir une sorte de passeport parisien qui leur restera pour leur vie, pour toute leur vie.
Marc Chagall, il arrive en 1910 de Moscou, très probablement Gare de l'Est. Il écrit un texte intéressant dès 1922 dans une revue yiddish, le yiddish étant sa langue maternelle. Et donc il évoque son arrivée à Paris. Il écrit à ce moment-là « Je suis parti. Quatre jours plus tard, j'étais à Paris. Seul le long voyage de quatre jours de Paris jusqu'à la Russie m'a empêché d'y revenir aussitôt, ou une semaine, ou un mois plus tard. » Je m'appelle Pascale Samuel, je suis conservatrice pour l'art moderne et contemporain au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. On est dans ces années 1900, on est après l'exposition universelle. Donc on est à un moment où Paris est extrêmement attractif, c'est la ville des innovations artistiques. Et donc ces artistes qui sont jeunes, qui sortent d'école d'art, leurs professeurs leur disent d'aller à Paris se former. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'artistes qui viennent d'Allemagne, de l'Empire austro-hongrois ou qui viennent de l'Empire russe, qui viennent et qui choisissent Paris dans les premières années du siècle, avant même la Première Guerre mondiale. Et tous ces artistes, dans leur mémoire, mentionnent l'importance qu'a été la visite du Louvre et la découverte des collections dans leur propre travail. C'est le cas de Chagall, mais ce sera le cas de beaucoup d'autres. Zadkin, mais aussi Soutine.
Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas deux fois que je suis compatriote de Soutine, mais presque trois, puisque tout comme moi, il était israélite.
1958, le peintre Michael Kikoïn.
Il est né à Smilovici, petit bourg, situé à 6 km de Minsk, où il vivait avec sa famille. Je l'avais précédé de quelques semaines. Lorsqu'il débarquait ici, j'étais déjà installé place de Danzig, rue Danzig, à la Russe. J'ai payé 30 francs par trimestre, Soutine vient loger chez moi.
Beaucoup de ces artistes qui arrivent de l'Est, qui ont souvent pas d'argent, sont souvent dans des conditions très précaires, vont se retrouver à la ruche. Alors d'abord parce qu'il se passe le mot, mais ensuite parce que finalement à la ruche, les loyers sont très faibles. Et s'y sont retrouvés en même temps Chagall, Zadkine, mais aussi Soutine. À la ruche, beaucoup d'artistes viennent de l'étranger. Il y a une majorité d'ailleurs d'étrangers, hein, pas que des juifs. Hein, toutes les nationalités, j'ai envie de dire, étaient représentées. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même une grosse minorité d'artistes qui venaient de l'ancien Empire russe pour les raisons qu'on a évoquées, notamment les difficultés économiques, les pogroms et le numerus clausus qui leur était imposé et qui leur sera imposé jusqu'à la révolution de 1917 d'ailleurs. À la ruche, on est dans le 15e arrondissement, mais on est presque dans les faubourgs. On est près des abattoirs qui ont aujourd'hui disparu. Mais cette proximité avec les abattoirs fait que les artistes entendent le bruit du bétail qu'on égorge. Donc voilà, c'est aussi un bruit, un environnement qui va marquer les artistes. Voilà ce que dit Chagall de son séjour à la ruche. Tandis que dans les ateliers russes sanglotait un modèle offensé, que chez les Italiens s'élevaient des chants et les sons de la guitare, chez les Juifs des discussions. Moi, j'étais seule dans mon atelier, devant ma lampe à pétrole. Là-bas, plus loin, on égorgeait le bétail. Les vaches mugissaient et je les peignais. Je veillais ainsi des nuits entières.
On pourrait encore citer beaucoup de noms, par exemple, de sculpteurs tchèques, qui, bien sûr, sont fascinés par les personnalités de Rodin et de Bourdel. Ce que je dis des Tchèques est vrai aussi pour les Roumains, fascinés par Paris. le cas du sculpteur Constantine Brancusi, qui décide de partir à pied vers Paris, qui s'arrête à Vienne où il tombe malade et là il prend le train pour arriver à Paris. Donc il arrive Gare de l'Est à ce moment-là, comme le jeune Bénèche est arrivé Gare de l'Est en 1905. Ou encore le Hongrois, le sculpteur hongrois Józef Csáky, qui arrive en 1908 avec seulement 40 francs en poche.
Hier ont eu lieu à Paris les obsèques du grand sculpteur Constantin Brancusi, qui était né le 21 février 1876 à Pestizani en Roumanie. Il descendait d'une vieille famille paysanne roumaine et en 1904, il décida de venir continuer ses études à Paris. Il n'a plus quitté notre pays depuis. Il y avait des amis nombreux et fidèles, et peut-être le plus fidèle d'entre eux était Madame Valentine Hugo, à qui nous avons demandé de venir rendre hommage ce soir à Brancusi.
Eh bien, il aimait raconter que, n'ayant pas d'argent, il fit le voyage presque entièrement à pied. Naturellement, les commencements furent difficiles. Il fallait vivre et continuer de sculpter, d'apprendre. Il fut laveur de verre dans un restaurant près de la gare de l'Est. Et puis sa condition s'améliora et Rodin désira le prendre dans son atelier. Mais il voulait garder son indépendance et travailla seul. Il sculpta alors le baiser et puis la tête de femme. Des chefs-d'œuvre incomparables qui seront vivants toujours.
Je m'appelle Dan Burcea. Je suis né en Roumanie, dans un petit village de la plaine roumaine, pas loin de Bucarest, 13 novembre 1952. Je suis arrivé en France en juillet 1990. Bien sûr que le souvenir est très, très persistant dans ma mémoire, parce que c'est un voyage, on va dire, dont tout dépend. J'arrive en France, j'arrive à Paris, à la gare de l'Est, et forcément, on a, si vous voulez, en mémoire, toute une lignée de Roumains qui ont fait le trajet pour arriver en France. Et si je devais penser à quelqu'un de particulier, celui qui me ressemble un peu plus, on va dire, c'est peut-être Brancusi. Brancusi n'est pas le seul représentant de ce courant roumain du début du XXe siècle qui arrive à Paris. Il y aurait beaucoup de noms à citer. Et il y a, par exemple, l'ingénieur Jean Ipcar et son épouse Annette, qui ne sont autres que les grands-parents maternelle de Eugène Ionesco. Il faut le dire, il y a un certain nombre d'artistes et de journalistes et de scientifiques qui arrivent en France. Georges Ionesco, le grand compositeur d'origine roumaine, Georges Ionesco, qui arrive à Paris après avoir fait ses études à Vienne. Après, bien sûr, il y a Negrescu. Pourquoi tout ce monde arrive à Paris? C'est parce que Paris et le centre culturel du monde. Atras încet trenul târziu seara la un peron al gării de est. Le train avance lentement, tard dans la soirée sur le quai de la gare de l'Est. Pe când alerg către capătul vagonului, mă izbesc de cineva și mi se rostogolește pălăria până sub boroțile vagonului. En courant vers l'autre bout du wagon, je heurte quelqu'un et mon chapeau roule sous les roues. O recuperez în genunchi pe peron, je le récupère à genoux sur le quai, incident tragicomique. Je peux vous lire le témoignage de Neagu Djuvara, le souvenir d'exil, et qui est mort à l'âge vénérable de 101 ans. J'ai l'impression d'être cloué sur place. Je prends les deux valises qu'un gentil voyageur me tend. Embrassade, agitation. Eu parcă simt locul lui. Iau cele două geamantane pe care mi le întinde un călător amabil. Îmbrățișări, agitație. C'est un historien qui a vécu une longue période en France. Il est arrivé quand il était très jeune, au début du XXe siècle. Am un nod în gât. Dar avem treabă. Căruciorul, geamantanele, înghesuiala către ieșire. J'ai comme une boule dans le ventre. Le chariot, les valises. La ruée vers la sortie. Et c'est lui, d'ailleurs, qui parle, qui dit « Je suis français de culture et de destin ». Et ça, j'ai trouvé ça très beau parce que ça en dit beaucoup sur toute une génération d'intellectuels roumains qui ont choisi la France non seulement comme langue d'écriture, mais aussi comme, si vous voulez, comme destin culturel.
Deux autres éléments ont joué un rôle qu'il faut absolument rappeler. D'abord, la langue française. Le français reste la langue de culture européenne des élites européennes. Et d'autre part, ce qui n'est pas moins important pour d'autres fractions de la population, c'est l'impact de la Révolution et de la France révolutionnaire, qui fait de Paris un havre pour les exilés politiques, un refuge, un asile. Dès la fin du XVIIIe siècle, en 1830, en 1848, à la fin du XIXe siècle et pendant tout le XXe siècle. Le premier que je citerai, c'est un musicien, un corniste, qui s'appelait Jan Václav Štirpunto, dit aussi Giovanni Punto, qui a trouvé refuge en France au moment de la Révolution, en 1789, et qui est resté une dizaine d'années en France à ce moment-là. Autre exemple littéraire, celui-ci, Jan Neruda. Alors, on a en tête Pablo Neruda. La légende voudrait que Pablo Neruda ait pris ce nom en référence à Jan Neruda, qui est un des grands écrivains tchèques du XIXe siècle, fondateur du genre de la nouvelle en tchèque, qui vient à Paris en 1863. Et il est fasciné par la capitale, et un de ses premiers gestes est de se rendre sur la tombe de Heinrich Heine pour y cueillir une fleur qu'il veut ramener en Bohême. Paris, dans ce cadre-là, est une sorte déjà de pèlerinage et une capitale symbolique de l'exil.
Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Ich kann nicht mehr die Augen schließen und meine heißen Tränen fließen. Pensée nocturne. Si la nuit, je pense à l'Allemagne, je me vois privée de sommeil. Je ne peux plus fermer les yeux. Ils se remplissent de chaudes larmes. Je m'appelle Dorothea Bonnekamp, je suis née en Rhénanie du Nord-Westphalie. Je suis historienne de formation, spécialiste de l'histoire de l'Allemagne et plus particulièrement de l'exil juif en France et du post-exil. En effet, l'exil de Heinrich Heine, immense poète politique, qui bien sûr viendra se réfugier, immigre à Paris pour contourner la censure en Allemagne. Il sera vraiment l'emblème de cette dissidence, de cette opposition politique, de cette jeune Allemagne libérale, post-romantique. À partir de 1830, c'est la révolution avortée de juillet, des associations politiques, des partis politiques étaient interdits. Il sera l'épicentre de toute cette communauté immigrée. À cette communauté se mêlent aussi de nombreux juifs allemands, souvent d'origine berlinoise. Il y a plusieurs milliers de juifs allemands qui viennent trouver refuge, enfin qui viennent s'installer à Paris. Heinrich Heine en sera l'archétype, l'emblème. Il va réunir autour de lui tout un réseau d'ailleurs d'hommes politiques, de scientifiques, comme par exemple Alexander von Humboldt, James de Rothschild, le musicien Jacques Offenbach et surtout son grand ami Karl Marx. D'ailleurs, cette tradition de Heinrich Heine qui a su établir autour de lui un incroyable foyer d'effervescence poétique, culturelle, intellectuelle, a laissé des traces dans la mémoire de l'exil allemand en France. Et quand après 1933, c'est de nouvelles vagues d'émigrants, ou plutôt de réfugiés juifs et allemands, qui viennent s'installer en France, c'est toujours cette mémoire de Heinrich Heine à Paris qui a beaucoup irrigué les cercles des migrants.
Il a joué un rôle évident. Il connaissait tout le monde. Tout le monde le connaissait.
Denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich den Schlaf gebracht. Ich kann nicht mehr die Augen schließen und meine heißen Tränen fließen.
Je m'appelle Georges Arthur Goldschmidt, je suis né. Tout le monde ne peut pas en dire autant, le 2 mai 1928. Mon arrière-grand-père est né au XVIIIe siècle. Nous sommes famille protestante d'origine juive. Je suis arrivé en France en 1939. Et Heinrich Heine, qui est mon arrière-grand-mère, était la sœur de sa mère, je crois. Mon père, qui était un partisan de l'empereur, mon père était un monarchiste allemand. Il n'y a pas plus allemand que mon père. Et dans la bibliothèque, alors il y avait Goethe en grand, évidemment, et derrière, caché, des petits volumes des poésies de Heine. Il ne voulait pas que ça sache. Heine pensait mal. Hein. Il a ajouté la liberté de penser, une espèce de mauvais esprit, par son interprétation politique des événements de son époque. C'est un esprit frondeur et essentiel. Un grand bonhomme. C'est un immense bonhomme, Heine.
Tout cela explique que ce Paris polysémique soit devenu un lieu mythique des libertés politiques, littéraires et artistiques et l'asile de nombreux Européens. Une dimension qu'on retrouve aussi d'ailleurs chez les Polonais et chez les Russes.
Je m'appelle Jean-Yves Potel. Donc je suis historien et je m'intéresse particulièrement depuis une quarantaine d'années à l'Europe centrale et orientale. Dans les années 1830-1860, il y a eu une grande résistance en Pologne. Il y a eu des luttes importantes et il y a eu des insurrections. Et ces insurrections ont entraîné une émigration de beaucoup de gens, notamment d'intellectuels, qui ont fui ce qui se passait en Pologne, où il y avait une oppression forte. Et quand il y a la Commune de Paris, il y a des Polonais qui participent. Les gens qui arrivent de Pologne en France, notamment à Paris, et ceux qui arrivent par la guerre de l'Est, souvent, ils viennent dans un pays qu'ils considèrent comme un pays de la liberté et des droits de l'homme. Et ils sont notamment liés aussi par le biais du romantisme, du mouvement romantique. Vous avez des grands romantiques polonais comme Adam Mickiewicz, pour citer que lui, ou Frédéric Chopin, qui sont installés en France, qui s'installent après 1830 et qui vont cultiver sur place une culture de l'exil, une culture romantique qui va être bientôt la référence. Et ensuite, il y a une vague importante de pogroms en Pologne, enfin sur le territoire polonais, parce que la Pologne n'existe pas en tant qu'État indépendant, dans la période avant la Première Guerre mondiale. Les Juifs qui fuient les pogroms.
Von Trier's habesem dicken Waren regen, bei Bollingen kennen sich zibillieren bei Wegen, Ein Land mit der Kindheit in alten Sekoren, ressuscité par la chaleur de la pluie, avec douceur et lenteur, s'éveille et fleurit, enlacé à l'enfance, ancien souvenir, la rose violon dans l'arche noire de la terre. Die Fiedelreuse in einem schwarzerdigen Horn.
Il y a effectivement cette forte émigration juive qui est liée à la montée de l'antisémitisme dans l'Empire russe à partir des années 1860. Et donc cette émigration juive devient très importante à partir des années 1880. Et Paris devient progressivement un lieu d'installation à partir surtout de la toute fin du 19e siècle et la première décennie du 20e siècle. En 1911, on compte plus de 30 000 Russes présents en France et pour l'essentiel, ce sont des Juifs russes immigrés en France depuis la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle.
Le Covid a strunné, le Covid irciter, le Covid a bien vos ironic isbiter, nor zis isir stoch, also isaftig und quietig, le Covid a wieder geboren im Weltig. Pour célébrer une corde, pour l'entendre vibrer, pour célébrer une abeille dont le miel est amer, mais douce la piqûre, poison et douceur qui célèbre la renaissance de la douleur.
Donc ces pogroms font que pour beaucoup de Juifs, beaucoup partent vers la France, entre autres. Ceux qui arrivent à Paris, ils arrivent Gare de l'Est et ils se concentrent dans le quartier qu'on appelle le Pletzel, qui est en fait le Marais, en fait, dans cette zone qui est restée jusqu'à aujourd'hui un quartier de forte concentration juive à Paris, où il y a une grande concentration de Juifs polonais et de Juifs russes.
Après les années 1880, fuyant les pogroms qui se déroulaient en Russie, notamment le pogrom de Kishinev, le pogrom d'Odessa, les Juifs immigrés sont arrivés à Paris en très grand nombre et effectivement se sont regroupés dans le 4e arrondissement, ce qu'on a appelé le Pletzel. Et ils avaient été précédés par les Juifs d'Alsace et de Lorraine qui aussi s'étaient installés dans le Pletzel. Petite place où se déroulait la vie quotidienne, où il y avait des boutiques, une sorte de fourmillement de population toute yiddishophone et qui échangeaient leurs douleurs et leurs aspirations d'avenir, en quelque sorte, dans ce lieu de liberté qu'ils croyaient avoir trouvé. Tout le monde pensait que Paris, la France, représentait la liberté et l'avenir. Et donc, il y avait un dicton qui se répandait parmi les immigrés et qui disait « On est heureux comme Dieu en France ». En yiddish, « Glücklich wie Gott in Paris oder in Frankreich. »
Je m'appelle Clara Royer, je suis née en 81 à Paris. Je suis née dans une famille assez française, avec toutefois la particularité d'une branche maternelle qui venait de l'Est. J'ai longtemps cru que mon arrière-grand-mère était née à Budapest, mais il s'avère qu'en fait elle est née à Paris et que ce sont ses parents à elle qui ont émigré avant la Première Guerre mondiale, d'où ce n'est pas très certain, de Galicie, de Budapest, en tout cas de l'Empire austro-hongrois. J'ai découvert il y a un peu plus de 2 ans maintenant que notre histoire familiale passait aussi par la gare de l'Est. La gare de l'Est a été un prélude à Auschwitz. Voilà. Ça a été aussi une gare de départ, la gare de l'Est. Pour moi, c'est plus une gare de départ que d'arrivée.
Au gare de l'Est, reggelre immer messe futok.
Au matin, je m'éloigne en courant.
Zsbomlottan sírok valahol.
Et pleure quelque part, tel un démon.
Most sírni, nyögni nem merek én. Párizs dalol, dalol.
Je n'ose ni pleurs ni plaintes à présent. Paris résonne de ses chants. Avant la Première Guerre mondiale, qui va introduire un vrai tournant, je pense, dans l'imaginaire parisien, en Hongrie. Alors déjà, il y a une communauté hongroise à Paris. Et parmi ces Hongrois qui viennent à la belle époque, à Paris, eh bien, il y a ceux pour qui Paris, c'est la Mecque des arts. C'est le centre de l'Occident, en fait. Et ce Paris fantasmé-là, il va perdurer beaucoup. Il est alimenté aussi par ceux qui en reviennent, en particulier par un poète qui s'appelait André Audi. C'était le fils d'une famille de la noblesse transylvaine appauvrie, disons. Il a rencontré une femme qui s'appelait Adèle Brühl. Et ils ont eu une histoire passionnelle. Adèle Brühl l'emmène à Paris. Et donc il arrive à Paris, je crois, pour la première fois en 1904. Et il va y faire, je crois, 6 séjours.
Én elmegyek most, hazamegyek.
Moi, je pars, je rentre au pays.
Már sziszeg, dohog a vonat.
Le train déjà siffle et crache.
Még itt van Párizs a szívemen, és elránt az alkonyat.
Dans mon cœur, il y a encore Paris, et le crépuscule l'arrache. Alors, quand Audi est à Paris, il va écrire plusieurs poèmes sur Paris. Et ce sont les poèmes d'Audi qui vont construire plus avant le mythe de Paris. Et l'un des poèmes, peut-être le poème le plus célèbre d'Audi dans cette veine, c'est un poème qui s'intitule « À la gare de l'Est », qu'il publie en 1907, qui raconte son voyage de retour. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la gare de l'Est, c'est la gare dont on part. Et ce n'est pas la gare où on arrive.
Most fut bolond sok álmom alá, a füttyös barna szörnyeteg. Holnap fehérebb én leszek-e, vagy a svájci hegyek?
À présent brûle sous mes rêves délirants la brune horreur qui crisse. Demain serai-je moi plus blanc, ou bien les montagnes suisses?
Holnap fehérebb én leszek, én! Téli sírkertek szelejő.
Demain, je serai plus blanc, moi, dans le vent des hivernales nécropoles.
Küldi már a csókjait nekem.
Déjà le cimetière hongrois.
A magyar temető.
Vers moi, ses baisers envolés. Pour moi, l'Est, c'est là où on mange des gâteaux au pavot. Alors, il y en a d'autres qui vont dire que c'est là où on mange des gâteaux à la pomme, que ce soit le strudel, le reitesh, la charlotte capolonaise. Mais je préfère le pavot à cause de Paul Celan, en fait. Je crois qu'on se fait tous nos définitions de cœur.
Alors, l'Est, pour moi, c'est comme un bon strudel bien... plein de bonnes choses. En fait, l'Est, pour moi, c'est mon enfance. Et mon enfance a été heureuse, parce que j'ai été épargnée. Donc l'Est, pour moi, c'est quand même un bon gâteau viennois, hongrois, budapestois. Et j'aime y aller pour y passer une semaine. Pas beaucoup plus. Parce que j'aime revenir. Et revenir à Paris, c'est très très bon.
«
Et la gare de l'Est, qui pour nous évoque quelques destinations peut-être inquiétantes. Lorsqu'on regarde les choses dans l'autre sens, la gare de l'Est, c'est le point d'arrivée, c'est le rêve. C'est le rêve de quitter sa petite ville de Transylvanie pour aller à Paris. Et pour moi aussi, la gare de l'Est, c'était le rêve.
Avec les historiens et chercheurs Antoine Marès, Catherine Gousseff, Clara Royer, Jean-Yves Potel, Dorothea Bonnecamp, Patrice Armagé, Odile Roinette, Pascal Samuel, Luba Jurgensen. Et les passagers de la gare de l'Est, Andrea Badea, Georges-Arthur Goldschmidt, Dan Bursea, Rachel Hertel, Yuli Falou et Roman Kames. Remerciements à SNCF, Cécile Boez, Marie-Noël Polino, Jean-Philippe Chantecaille, Margot Michelin et Jean-Claude Godin. Archives INA, Mylène Touchet. Documentation, Annelise Signoret. Prise de son, Benjamin Thuot, Éric Boisset, Virginie Lorda, Corentin Bailly et Claire Levasseur. Mixage, Hervé Dubreuil. Attaché de production, Marie-Vonne Abolivier et Anaïs Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Sur une idée d'Adam Biraud, Gare de l'Est, aller et retour. Un documentaire de Christine Le Cerf, réalisé par Franck Lilin. Prochain épisode, La gare des guerres.